7 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines, bien sûr, pour se parler chaque jour, du nord au sud, à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale qui se tiendra samedi. Regard croisé sur le racisme très ordinaire, des actes, des mots, un état d'esprit, aujourd'hui de plus en plus condamné par l'opinion, voire par la justice, mais aussi de plus en plus banalisé, des stades de foot aux réseaux sociaux. Quelles sont finalement les nouvelles formes de racisme aujourd'hui? Des terrorismes renforce-t-il les peurs de part et d'autre? Nous allons en parler avec nos invités. Rokhaya Diallo, journaliste, cofondatrice de l'association Les Indivisibles. Bonjour Rokhaya.
Bonjour.
Soyez la bienvenue. Vous avez publié, entre autres, Racisme, mode d'emploi. Virginie Sassoon est également là, votre co-auteur dans le studio. Bonjour Virginie Sassoon.
Bonjour.
Vous êtes enseignante et sociologue des médias et vous êtes l'auteur d'une thèse très remarquée, Femmes noires sur papier glacé. Et puis vous venez surtout de publier toutes les deux ensemble, Moi raciste jamais, scène de racisme ordinaire chez Flammarion, qui rassemble en fait les témoignages de victimes du racisme postés sur la plateforme internet Racisme ordinaire, qui a été lancée par France Télévisions et qui est aujourd'hui gérée d'ailleurs entre autres par vous sur le plan éditorial, hein, Virginie Sassoon, et surtout par la délégation interministérielle de lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Preuve que le racisme même ordinaire est bien un sujet politique, hein.
Oui, tout à fait.
Et quant à vous, les voisins et les voisines, comment se manifeste chez vous le racisme? Quelles évolutions? Les préjugés sont-ils malgré tout en voie de régression selon vous, notamment chez les jeunes générations? A-t-on des raisons d'espérer? N'attendez pas la fin de l'émission surtout pour nous appeler, sinon après vous êtes déçus. 33 1 84 22 71 71. Je vous lis des messages extrêmement intéressants postés sur les réseaux sociaux chez 7 milliards de voisins. C'est vraiment le racisme au pluriel, hein, que connaissent nos auditeurs. Daniel à Dakar nous dit « Les Africains se plaignent du racisme occidental, alors qu'en Afrique, il y a une autre forme de discrimination entre les ressortissants des différents pays d'Afrique. Au Sénégal, les étrangers africains sont appelés « niak » et non à connotation péjorative, on l'a compris. En Europe, on me traiterait de « nègre », au Sénégal, on me traite de « niak ». Voilà, ça c'est le témoignage de Daniel. Saliou en Libye, à Tripoli, tu ne peux même pas sortir pour aller travailler tellement la population déteste voir des Africains qui ont le teint noir. Les Libyens se croient supérieurs à tout le monde. Boukadri, Kaidi, là, il y a une nouvelle forme de racisme au Sénégal sur les réseaux sociaux. Quand tu commentes un sujet, que ton avis n'est pas au goût de l'autre et que tu as un nom comme Traoré, Diarra, Sissoko, Koulibaly, des noms d'origine mandingue, on te répond que tu es malien ou bien que tu n'es pas sénégalais. Sous-entendu que tu n'as donc pas ta place sur les débats sur les réseaux sociaux. Moussa, à Dakar également, nous dit au Sénégal, on dit que les Peuls sont racistes parce que tout simplement ils sont fidèles à leur langue maternelle et que les autres ne comprennent pas. Moi ça me touche, vraiment. Cher, à Ségou, au Mali, il existe une nouvelle forme de racisme entre plusieurs ethnies au Mali et c'est de plus en plus fréquent. Plus de 50% des Maliens, nous dit Cher, parlent Bambara. C'est la deuxième langue par défaut après le français. Pourtant, nous dit Cher, certains font semblant de ne pas te comprendre parce que tu n'es pas de la même ethnie qu'eux. Quand tu viens leur parler en bambara, ils se mettent exprès à parler dans une langue que tu ne comprends pas. Voilà. Tous les problèmes pour vivre ensemble, comprendre l'autre. 33 1 84 22 71 71. On parle du racisme ordinaire aujourd'hui. Rokhaya Diallo, Virginie Sassoon, peut-être un commentaire sur ce que je viens de lire rapidement.
Bah évidemment, il y a plein de choses qui me parlent, puisqu'il se trouve que mes parents sont sénégalais. Donc c'est vrai que le terme niak qui a été évoqué, en fait, c'est un terme générique pour désigner tous les non sénégalais, non musulmans, enfin qui correspond un peu à barbare. Enfin, c'est vraiment assez étrange. Et moi-même, étant une Diallo, donc un nom qui n'est pas authentiquement sénégalais, quand j'étais petite, j'avais mes cousins qui se moquaient de moi, parce qu'en fait, beaucoup des gens qui s'appellent Diallo Sénégal viennent de Guinée et sont des vendeurs ambulants. Donc, dans ma famille, on me demandait régulièrement des cacahuètes pour se moquer de moi. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai expérimenté aussi, alors que ce sont mes cousins et des gens de ma famille. Mais c'est le nom de mon père, donc voilà.
Virginie Sassoon.
Moi, je connais moins cette réalité-là directement, mais je pense que ça témoigne du fait qu'en réalité, les préjugés, la question de la déconstruction des préjugés, c'est quelque chose qui nous concerne tous, enfin, de manière transnationale, transfrontalière.
Il Hier, la haine a de nouveau frappé à Tunis, vous l'avez entendu, après Charlie Hebdo, l'hyper-cachère, après Bamako. Comment vous avez réagi, Rokhaya Diallo?
Mais évidemment, avec le même effroi que lors des précédentes attaques. Et puis aussi avec la crainte que ça, que cela nourrisse les préjugés qui existent déjà à l'égard des musulmans. J'ai vu des réactions assez rapides sur les réseaux sociaux, commençant à remettre en cause l'islam, les musulmans en tant que tels. Et c'est vrai que tout souvent, ces événements internationaux qui se produisent à l'étranger ont une incidence sur la manière dont sont perçus les musulmans à travers le monde. Donc c'était, voilà, j'ai eu ces deux réactions immédiates, de solidarité d'une part et puis de crainte de l'autre.
Et précisément, alors que là, c'est la véritable victime, c'est la vraie démocratie dans le monde arabe, la Tunisie.
C'est ça, d'une part, c'est la démocratie. Et puis souvent, dans les attentats, dans ce qu'on oublie, c'est que les premières victimes sont aussi des musulmans. C'est ce que montre bien le film d'Abderrahmane Sissako, Timbuktu. C'est que souvent, les musulmans sont autant victimes des terroristes que les gens qui ne le sont pas. Donc c'est aussi difficile de simplifier, de caricaturer qui sont les terroristes et qui ne le sont pas.
Virginie Sassoud, on peut mettre en relation la géopolitique, la grande complexité de cette géopolitique et le racisme ordinaire dans les interstices de la vie quotidienne.
Ben oui, je pense que de toute façon, les flux migratoires et le monde dans lequel on vit nous conduit à vivre ensemble. Et de fait, on est dépendant de processus migratoires qui nous dépassent. Mmh. Après, je pense que ce qui est difficile, c'est on ne peut qu'être ému. Par exemple, sur cette tragédie, comme on l'a été récemment ici à Paris, mais comment ensuite évaluer les désastres que ça crée au quotidien dans la perception et la responsabilité des médias aussi à ne pas être que dans l'émotion, parce que ça crée des dégâts épouvantables.
Ah justement, vous parliez des flux migratoires, vous le savez peut-être, le musée de l'immigration à Paris, le 13 mars dernier, a vu ses murs recouvert d'affiches hostiles aux étrangers en France. Ça a été revendiqué par un groupe proche de l'extrême droite, qui s'appelle Dissidence Française. Il y avait des affiches qui, par exemple, sur lesquelles on pouvait lire « Le multiculturalisme est un échec et mène la France à la guerre civile ». Le musée a porté plainte, d'ailleurs, pour vandalisme, entre autres. Rokhaya Diallo, qu'est-ce que ça vous inspire?
Ça fait vraiment écho au score des partis d'extrême droite. On est quand même en France le pays qui a envoyé le plus de députés d'extrême droite au Parlement européen. Il faut le rappeler, on est dans un climat de tension extrême et en même temps une absence de mémoire, parce que si aujourd'hui il y a ces flux migratoires et si la France est aujourd'hui un pays multiculturel, c'est aussi lié à son histoire coloniale. Souvent on voit dans les manifestations des panneaux qui disent nous sommes ici parce que vous étiez là-bas. Et il y a une vraie continuité, en fait, un continuum historique entre ce passé de la France qui a envahi des pays, notamment africains et asiatiques, et les descendants de ceux qui étaient considérés comme des indigènes qui sont aujourd'hui en France. Et je pense que, contrairement à ce que disent les affiches, le multiculturalisme n'est pas un échec, mais qu'en même temps, il y a une absence de prise en charge politique de ce phénomène et vraiment une crainte, en fait, je parlerais même d'un tabou à s'exprimer sur ce sujet-là de la part de nos politiques qui ont du mal, en fait, à se positionner par rapport à une évidence factuelle dont il refuse de prendre en compte les conséquences politiques.
Mais 30 ans après SOS Racisme, où en est la lutte contre le racisme pour vous qui avez créé cette association Les Indivisibles?
Je pense que SOS Racisme, c'était vraiment une manipulation de la part du Parti Socialiste. En fait, c'est une association qui a été créée sur le succès médiatique d'une marche qui venait du terrain, qui venait des minorités, et en fait qui a été constituée avec des personnes qui étaient des militants socialistes. Et je crois aujourd'hui...
Il y a eu aussi un vrai souffle, je veux dire, sincère,
Absolument.
Qui n'était pas que de la manipulation politique.
Mais en fait, il y a eu une marche donc qui était Convergence 84, et à l'issue de cette marche, en fait, François Mitterrand a créé SOS Racisme et a dépossédé les marcheurs de quelque chose qui venait du terrain. Et effectivement, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles le mouvement antiraciste a continué, mais un petit peu hors sol, parce qu'il a été récupéré par un mouvement qui a effectivement fait un travail, notamment dans les années 90, très intéressant, mais qui était aussi beaucoup axé sur les médias, sur les concerts ou des choses comme ça. Donc aujourd'hui, les gens qui sont les enfants des personnes qui ont marché sont un peu désabusés parce qu'ils ont assisté aussi à l'échec de leurs parents, et on se rend compte que 30 ans plus tard, même si des choses ont évolué, on est aujourd'hui en train de... vous avez suivi, j'imagine, le procès des policiers qui ont poursuivi Ziad Bena et Bouna Traoré. Ça fait
10 ans.
Qui
ont déclenché donc les émeutes à Clichy-sous-Bois.
Absolument, à Clichy-sous-Bois en 2005. Et il a fallu 10 ans, en fait, pour que ces policiers soient jugés pour non-assistance à la personne en danger. Et en fait, ce contrôle d'identité a donné lieu à la mort de deux jeunes. Et ce sont les mêmes raisons qui ont provoqué des révoltes en 79, en 91, etc., etc. Donc finalement, les mêmes causes créent les mêmes conséquences et on ne prend pas vraiment en charge ces conséquences-là. Par exemple, le récépissé du contrôle d'identité, qui était une attestation que devraient donner les policiers lors de contrôle d'identité, c'est une mesure qui n'a jamais été instaurée par le gouvernement actuel, alors qu'ils avaient promis de lutter contre le contrôle au faciès.
Alors justement, revenons au racisme ordinaire, parce que c'est vraiment ce dont traite votre livre, qui a ramassé des témoignages, c'est-à-dire c'est vraiment du vécu hein, de gens qui s'estiment, qui se sentent victimes de racisme. Quel est ce racisme ordinaire que vous avez voulu montrer dans le livre, Virginie Sassoon?
Alors c'est pas, c'est des racismes, parce que en fait le livre, on a reçu plus de 1600 témoignages et on en a publié 400. Et ce sont des tranches de vie, des anecdotes en fait qui donnent à comprendre ce qu'est le racisme ordinaire dans toute sa diversité et avec ses différents niveaux de gravité aussi.
Oui, c'est ça. Parlons des cibles. Là. Les cibles des gens qui s'estiment donc victimes de racisme et qui témoignent.
Ce sont les victimes, enfin ce sont des gens qui ont été
alors qui sont issus de la diversité.
Oui, alors ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait ces témoignages sont bruts, anonymes, on ne sait pas qui est derrière
et d'ailleurs, c'est déclaratif,
les points de convergence.
On n'a pas été vérifié si ce qu'il a leur témoignage d'ailleurs était
en fait les témoignages sont authentiques parce que à force d'en recevoir et vu la somme des témoignages qu'on a reçus, c'est-à-dire que à force d'en recevoir, on se rend compte qu'il y a une authenticité il y a rien d'exceptionnel en fait dans ce que les gens vivent, mais ce qui est exceptionnel, c'est leur ressenti personnel qu'il faut écouter, qu'il faut entendre.
Des petites phrases
Du quotidien, parfois des blagues, parfois des compliments aussi, comme tu es jolie pour une asiatique, ou tu danses bien quand pour une personne noire, évidemment parce que t'as ça dans la peau, t'as le rythme dans la peau, donc toutes ces choses en fait qui révèlent tout un imaginaire à déconstruire et qui sont pas forcément méchantes hein.
Mais préjugés, racisme, finalement, le racisme, c'est le stade au-dessus ou le préjugé est forcément raciste?
Non, bah il y a plein de préjugés, il y a des préjugés sexistes.
On en a tous.
Parfois ils s'articulent.
Mais on en a tous d'ailleurs forcément.
Bien sûr.
On en a tous parce que c'est aussi comme ça qu'on fonctionne, c'est aussi une des modalités de fonctionnement du cerveau. Donc on a des préjugés et je pense que le plus important c'est pas tant de ne pas avoir de préjugés que d'être capable de les construire, de les déconstruire et de les remettre en cause. Et c'est vraiment là-dessus que je pense qu'il y a un travail à faire.
Vous nous appelez les voisins et les voisines au 33 1 84 22 71 71. On parle du racisme aujourd'hui chez 7 milliards de voisins.
7 milliards de voisins. À la minute, à la seconde près, on sait tout ce qui se passe au bout du monde. Nous faisons tous partie de la même famille humaine. 7 milliards de voisins.
Nous sommes en ligne avec une voisine qui nous appelle de Marseille. Bonjour Agnès.
Bonjour Emmanuel.
Agnès, vous êtes étudiante gabonaise à l'université à Marseille, c'est bien cela?
C'est ça, c'est bien cela.
Ouais, on vous écoute.
Donc je suis en France depuis 2009 et je voulais dire en fait que les préjugés racistes, c'est bien du racisme, bien que ce soit pas à une échelle très très grande, mais c'est bien des préjugés racistes et personnellement je les prends pas au premier degré. J'essaye vraiment de les prendre pour de l'ignorance, d'essayer de dire aux gens comment sont véritablement les choses. Donc si on me dit à moi, mais tu sais danser forcément, j'ai vu telle danse, forcément tu sais le faire parce que tu es africaine, je dis non, pas du tout, je ne sais pas le faire. Et je le dis le plus calmement possible et je ne le prends vraiment pas pour moi. Si on me dit tu ne prends pas de coups de soleil, tu supportes très bien la chaleur, je dis non, je ne supporte pas très bien la chaleur.
Oui, alors ça, ces gens-là n'écoutent pas Priorité Santé et les dermatologues sur la peau noire, probablement.
Non, je ne pense pas. Donc j'explique et franchement je ne le prends vraiment pas pour moi et j'essaie de vraiment expliquer les choses. Maintenant, de ce que je constate, il y a une différence entre mon arrivée en France en 2009 et mon quotidien aujourd'hui parce que je côtoie quand même des étudiants en master en aménagement du territoire qui sont issus d'un parcours géographique, qui ont beaucoup voyagé, qui connaissent à peu près comment ça fonctionne chez les autres. Donc je trouve qu'ils sont plus ouverts et qu'ils ont moins de préjugés. notamment de préjugés racistes, et donc on peut discuter calmement de plein de choses, et le débat est beaucoup plus différent, en fait.
C'est le voyage ou c'est l'éducation qui crée l'ouverture, selon vous ?
Pour moi, l'éducation, oui, aussi, mais le voyage, que ce soit virtuellement ou physiquement, mais le fait d'aller vers une autre culture, chercher à savoir comment les autres fonctionnent, je pense que ça crée véritablement l'ouverture.
Ouais, et de côtoyer aussi des communautés multiculturelles, comme c'est quand même le cas beaucoup dans les universités françaises aujourd'hui, Rokhaya Diallo.
Oui, exactement.
Ouais. Oui, effectivement, je pense que les voyages, le fait de côtoyer des gens d'autres groupes, ça donne une sensibilité particulière à ce qu'ils peuvent expérimenter et à ce à quoi ils sont exposés. Et c'est vrai qu'on voit souvent que les personnes qui ont épousé, qui ont des conjoints qui sont d'origine étrangère et qui par conséquent ont souvent des enfants qui peuvent être d'une couleur différente de la leur, comprennent davantage ces questions de racisme ordinaire que d'autres qui ont une exposition un petit peu moindre à ces phénomènes-là. Donc je crois effectivement que le voyage, l'ouverture de manière générale, et après ça peut être un voyage physique, mais pas nécessairement, parce qu'on voit aussi que certains expatriés restent entre eux dans d'autres pays et ne côtoient pas forcément les populations locales et peuvent revenir de ces pays-là avec des préjugés. Donc c'est vraiment la rencontre volontaire.
Agnès, vous, vous êtes de nationalité gabonaise, vous êtes venue en France pour faire vos études, je présume.
Oui, c'est ça.
Est-ce que vous avez parfois le sentiment que les atteintes racistes, vous arrivez parfois mieux à les gérer, alors je mets mieux avec vraiment des guillemets, que d'autres personnes de couleur noire, de nationalité française, avec qui vous êtes à l'université, par exemple?
Je pense que oui. Je pense que oui, parce que moi, je les prends vraiment pas pour moi, et je pense qu'en général, c'est ce que font beaucoup de gens qui ont vécu au Gabon, en Afrique et en France. Je pense qu'avoir cette double culture, ça nous permet de prendre les choses avec un petit peu de recul. Sauf que quand on est français, on a grandi là, on a toujours été là, on a envie d'être comme les autres et de pas qu'on nous dise...
Ce qui est légitime, on a sa carte d'identité française.
Qu'on est noir et c'est totalement légitime. Donc je pense que nous, on le vit peut-être mieux, mais parce que les situations sont complètement différentes.
Et d'autant plus, alors vous venez vraiment d'une ville, vous venez de Libreville, je crois, Agnès.
Vous venez
vraiment d'une ville très multiculturelle, parce que Libreville, c'est vraiment une plaque qui reçoit énormément de migrants de l'Afrique subsaharienne. Donc les communautés, les cultures, les langues, etc., et les nationalités se mélangent. Rokhaya Diallo, sur justement, vous êtes née en France, je le redis, vous êtes née dans le 4e arrondissement à Paris. Vous d'ailleurs, vous avez une connaissance assez limitée de l'Afrique subsaharienne, ce qui peut se comprendre.
Oui, c'est ça. Je connais le Sénégal à travers mes parents, et puis après j'y suis allée ponctuellement lorsque j'étais petite, mais j'ai jamais vraiment vécu.
Comme un Français qui aurait des parents d'origine italienne et
c'est
qui
irait
de temps en temps.
C'est ça, pour l'été, qui connaît un peu sa famille, mais c'est vrai qu'en plus, le Sénégal, je connais quelques villes en particulier.
Sur les différences de vécu entre les Africains qui sont en France de nationalité donc autre que française et les Français...
Mais disons que c'est assez logique, parce que finalement les gens qui sont français d'origine africaine ou d'origine étrangère de manière générale, ils vivent et grandissent souvent dans l'illusion qu'ils sont exactement comme les autres, jusqu'à ce qu'à l'âge adulte, comme c'est mon cas, ils soient exposés à des questions qui sont d'ailleurs qui reviennent souvent dans le livre, des questions sur leur provenance. C'est vrai que moi, la première fois qu'on m'a demandé d'où je venais, je comprenais pas, en fait. Je répondais que je venais de Paris et je comprenais pas qu'on s'attendait à ce que je réponde que je venais d'un pays étranger. Et quand on voyage d'un pays étranger pour aller à un autre pays, je pense qu'on s'attend plus ou moins à être perçu comme étant différent de la majorité. Alors que lorsqu'on est dans un pays qu'on considère comme le sien, on n'est pas préparé psychologiquement à être traité différemment des personnes qu'on considère comme identiques à nous parce qu'elles parlent la même langue, parce qu'elles ont grandi dans le même espace. Et c'est souvent pour ça que ces propos racistes sont vécus peut-être plus douloureusement par les gens. Moi, je vois la différence simplement entre mes parents et moi. On ne reçoit pas les remarques racistes de la même manière, tout simplement parce que mes parents, ils ont aussi ce refuge intellectuel de se dire, bon, bah, toutes les façons, c'est pas mon pays. Alors que pour moi, c'est peut-être un peu différent.
Oui, cette assignation à l'ailleurs permanente, on l'a dans plusieurs témoignages de l'ouvrage. Et
on va y revenir justement. Vous restez avec nous toutes les deux, Virginie Sassoon et Rokhaya Diallo. Racisme ordinaire, comment se manifeste-t-il chez vous, les voisins? Quelles évolutions récentes? Merci beaucoup pour votre témoignage, Agnès. Et les autres, vous continuez de nous appeler au 33 1 84 22 71 71. On se cause juste après le flash, dans un tout petit peu plus de 3 minutes maintenant, sur RFI.
« 7 milliards de voisins ». on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins sur RFI. Le racisme, quelle nouvelle forme de racisme ordinaire aujourd'hui? On en discute avec vous, Rokhaya Diallo et Virginie Sassoon. Rokhaya Diallo, vous êtes journaliste, Virginie et Sassoon, vous êtes sociologue des médias et vous venez de publier toutes les deux « Moi, raciste, jamais », qui rassemble les témoignages de victimes du racisme. Alors, toute forme de racisme postée sur la plateforme Racisme Ordinaire qui a été lancée par France Télévisions et qui est gérée aujourd'hui par la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Et évidemment, le sujet est le bienvenu puisque samedi, c'est la journée de lutte contre le racisme. Vous vous souvenez évidemment de cette vidéo toutes les deux et je pense que bon nombre de nos auditeurs aussi. Vidéo amateur qui a fait le tour du web. C'était le 17 février dernier. Un homme noir apparaît sur les caméras de vidéo amateur et il est empêché de monter dans une rame de métro à la station Richelieu-Drouot dans le 9e arrondissement de Paris à cause de la couleur de sa peau. En fait, une poignée de supporters anglais du club de foot Chelsea est dans le wagon. Ils se rendent au match qui se tient le soir même contre le PSG au Parc des Princes. Les supporters repoussent littéralement l'homme plusieurs fois en scandant « We are racist and we like it ». Nous sommes racistes et ça nous plaît. Souleymane, 33 ans, commercial, père de 3 enfants, français d'origine mauritanienne et donc obligé de rester sur le quai. Alice Milo l'a rencontré ainsi que son avocat.
Je voulais pas que je rentre. La première fois, on m'a poussé. Une deuxième fois, on m'a poussé. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur son cou en disant que, bah, écoutez, ici, c'est la peau blanche, quoi. La peau noire n'a pas sa place dans ce métro. C'est hardcore, quoi. On vous pousse parce que vous êtes noir. On veut pas que vous rentrez parce que vous êtes noir. On chante qu'on est raciste. Mettre quelqu'un dehors parce qu'il est noir. Je pleurais au fond de mon cœur, mais je voulais pas les montrer que je pleurais quand même. Ça m'a fait trop mal de voir des étrangers qui viennent dans notre pays et qui nous empêchent de rentrer dans le métro. Tant citoyen français, j'étais au travail, comme toute père de famille qui a fini son travail, il y a la famille qui l'attend à la maison.
On voit sur la vidéo, vous essayez plusieurs fois de rentrer, vous vous êtes défendu.
Ben, je me suis défendu pour leur montrer que, voilà, j'ai pas peur. Mais après, à un moment donné, ben, ils vont me transformer en miette. J'en ai croisé beaucoup de gens qui m'ont dit que non, mais il fallait quand même bagarrer avec eux. Pas. Mais écoutez, vous savez, on peut pas gagner la haine par la haine.
Qu'est-ce qui s'est passé quand vous êtes rentré chez vous le soir?
J'ai eu honte. J'ai été humilié. Je l'ai pas dit à ma femme. Ni à mes enfants. Vous pouvez même pas savoir comment ça me touche. Je n'ose plus rentrer dans les métros maintenant. Je les vois, quoi. Ils sont toujours là, ils sont dans ma tête. Moi, j'ai la phobie des transports. Après, je peux dire que oui, moi, mon cas a été filmé. Mais vous imaginez d'autres qui ne sont pas filmés. Bah, ça m'est arrivé aussi au travail, qu'on m'a traité de singe. Bah, je suis parti porter plainte, mais le problème en est que il n'y avait pas de preuves tangibles, donc ça a été classé sans suite. Si mon histoire n'a pas été filmée, vous n'allez pas venir aussi parler avec moi pour me demander ce que je subis ou bien ce que les autres subissent.
Et vous n'en auriez parlé à personne?
Pour dire quoi? S'il n'y a pas de preuves ici, il n'y a rien. C'est tout.
Vous êtes maître Jim Michel Gabriel, donc l'avocat de Souleymane, donc qui a été victime de cette agression raciste.
Mon client, en fait, a déposé plainte immédiatement quand il a subi ces faits. Alors, c'est toujours le problème de la preuve, de la charge de la preuve. C'est ça le plus important. Mais dès lors qu'on peut avoir un élément, un témoignage, une attestation, une captation d'un événement, effectivement, à caractère raciste, je crois qu'il faut, justement, le dénoncer. Et plus on le dénoncera, plus ça sera facile. Peut-être que dans l'inconscient des racistes, ils se disent que peut-être qu'il y a quelqu'un qui filme sur ces jasissements et que peut-être que ça pourra cesser. Alors je ne dis pas que ça ne va pas cesser dans la sphère privée entre deux personnes et sans témoin, mais en revanche dans la sphère publique, comme un transport en commun. Parce que si aujourd'hui les supporters du Chelsea ont pensé qu'ils pouvaient faire ça dans le métro parisien, c'est qu'ils pensaient qu'ils pouvaient bénéficier d'une certaine impunité. Et le faire en plus à l'étranger. Ils auraient peut-être moins eu ce comportement-là chez eux. Et ça, c'est inadmissible. On doit être fier de ce qu'on est, on ne doit pas courber les chines. Souleymane a eu ce réflexe, aujourd'hui, de ne pas courber, d'insister 3 fois, de vouloir rentrer. Et ça, c'est tout à son honneur.
Souleymane a porté plainte contre X, contre les supporters de Chelsea et contre le club de Chelsea. Pour le moment, la police anglaise mène l'enquête pour identifier la totalité des personnes impliquées. Donc, sur la base de cette vidéo amateur, vos réactions, Virginie Sassoon?
C'est dramatique que ça puisse arriver encore. Je pense qu'on était tous choqués.
Encore, est-ce que ça aurait pu se produire il y a 20 ans d'ailleurs? C'est la question.
Oui, il y a 20 ans et ça se produira peut-être encore dans 20 ans. Mais je pense qu'il faut aussi rappeler que c'est quand même une minorité de gens qui ont ces comportements-là et qui peuvent être aussi violents et être fiers de leur racisme. Néanmoins, ça existe. Et c'est dramatique. En même temps, c'est bien que Souleymane ait pu témoigner et expliquer et que ça soit porté aussi dans l'espace public pour que on puisse réfléchir ensemble à ces questions-là et que ces gens-là soient sanctionnés.
Rokhaya Diallo.
Oui, effectivement, déjà, c'est une bonne chose que l'événement ait été filmé parce que c'est ce que dit Souleymane dans le témoignage qu'on vient d'entendre, que s'il n'y avait pas eu les caméras, sa parole aurait sans doute été mise en doute. Et c'est un peu ce dont souffrent souvent les gens qui sont victimes de racisme. Et après, ce que j'ai observé avec intérêt, c'est la réaction en Angleterre. On se rend compte que c'est aussi un pays qui a eu vraiment une réflexion importante sur la question du racisme et du coup qui prend la question très au sérieux. Cette histoire-là fait la une de plusieurs journaux. Les supporters qui ont été identifiés sont interdits de participation aux matchs de foot dans les stades. Et on voit bien qu'il y a une sensibilité en Angleterre, au Royaume-Uni, qui est peut-être plus importante que celle qu'il peut y avoir en France, parce que le travail qui a été fait sur le terrain a été mené déjà plus en amont et avec plus de...
En même temps, l'histoire de la ségrégation dans les transports, tout ça, enfin, elle a été tellement racontée dans les médias, la télévision, l'histoire de la ségrégation dans les transports aux États-Unis, en Afrique du Sud, etc. Comment un fait divers comme celui-ci peut être possible dans le métro parisien?
C'est vrai que c'est incroyable de se dire qu'en 2015, on peut assister à des manifestations de racisme aussi primaires. Et en même temps, quand on voit ce qu'a pu subir Christiane Taubira, on l'a renvoyée à des singes, à des bananes. Moi aussi, je pensais que c'était des formes de racisme qui appartenaient au siècle dernier. Et malheureusement, qu'on voit une petite fille...
Pour vous, c'est une résurgence ou ça... Non.
Moi, je pense que c'est la visibilité en fait d'un phénomène qui était moins visible. Ce qui se passe dans un cas, c'est que l'acte a été filmé. Dans l'autre cas, c'est Christiane Taubira est une personnalité publique. Je pense qu'il y a des gens qui subissent les mêmes choses.
Et derrière, il y a les réseaux sociaux qui relaient à la vitesse de la lumière.
D'ailleurs, les réseaux sociaux sont un excellent allié des mouvements antiracistes parce que, justement, le fait de pouvoir filmer, relayer, permet aussi de contourner parfois les médias qui ne peuvent pas tout traiter.
Mais allié des racistes aussi, parce que ça permet de diffuser très très vite des idées nauséabondes. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Nous accueillons un voisin qui nous appelle du Canada. Bonjour Racine.
Bonjour.
Racine, alors juste je précise, vous appelez de la région du Québec. Vous êtes burkinabé, c'est bien cela?
Absolument.
On vous écoute.
Donc, moi, je suis médecin burkinabé, je travaille au Lac Saint-Jean au Québec. Je suis quelqu'un d'assez discret, mais je tenais à intervenir quand j'ai entendu le thème de votre émission parce que c'est un sujet qui me tient à cœur.
Oui.
Je voulais d'abord rendre hommage à vos invités, en particulier à Rokhaya Diallo, parce que je l'écoute régulièrement. Je suis au Québec, mais j'écoute beaucoup de radio. J'écoute donc ces émissions vers 19h, heure de France, et elle porte haut le flambeau. Je tenais à lui tirer mon chapeau. Ensuite, je voulais parler du racisme ordinaire que j'ai vécu, que j'ai vu évoluer en France, parce que je suis arrivé dans une transition politique en 2004, et j'ai vu un changement de régime, et j'avais eu la libération des politiques qui a tout de suite fait basculer toute la population, enfin, j'exagère, pas toute la population, mais qui a tout de suite fait apparaître, amplifier le phénomène. Sous Chirac, on avait beaucoup moins de malaise à vivre en France quand on est noir et africain. La deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'en Afrique aussi, le racisme existe. Il y a beaucoup de xénophobie, notamment dans la sélection des dossiers et tout ça. Mais bon, forcément, on n'est pas victime forcément quand on est chez soi. Je pense que c'est des formes moins violentes et un peu... je pense que j'en ai pas été victime. Je suis peut-être mal placé pour le dire. Moi, je suis africain. Je suis originaire à la fois du Sénégal, du Mali et du Burkina. Donc,
En tant que médecin noir dans un hôpital au Canada, vous ne vous estimez pas au quotidien victime de préjugés quant à vos capacités scientifiques
Ah oui, ça forcément, que ce soit au Canada ou en France, de toute façon, c'est difficile pour nous. La plus grande partie des malades vous font quand même confiance, mais vous avez toujours un faible pourcentage qui ont un préjugé négatif parce que vous êtes noir. Et ça, on le montre de plus en plus. Il n'y a plus de subtilité comme avant. Donc oui, malgré le fait qu'on fasse partie de l'élite, on se fait quand même recevoir d'une façon assez violente, notamment dans les préfectures en France, ou encore hier, j'étais à Amsterdam, j'étais en transit pour aller en France. Je me suis fait accueillir par des douaniers, des agents d'immigration. J'ai un titre de séjour permanent au Canada, j'ai un titre de séjour en France pour un an, un visa d'un an. J'ai mon passeport burkinabé, malheureusement pour moi. Je me fais mettre de côté, tout le monde passe. Il suffit que vous soyez blanc, européen ou américain du Nord. Mais nous les Africains, on était 5 ou 6.
Oui.
On nous a mis de côté parce qu'il fallait qu'on check nos papiers.
C'est ça, ce contexte de vérification.
Ouais. Voilà.
Mais vous avez le sentiment que le racisme est pris en charge autrement par le discours politique au Canada ou pas?
Au Canada, c'est beaucoup plus... C'est différent de l'Europe. Les Canadiens sont des gens très, très doux, très extrêmement accueillants. Mais honnêtement, j'ai pas les mêmes problèmes qu'en France, mais c'est une difficulté d'adaptation. C'est peut-être de mon fait, mais de toute façon, un étranger, peut-être que je suis une personne extrêmement sensible, peut-être parce que je suis beaucoup sur l'actualité, et puis c'est peut-être dû à ma perception des choses, mais moi, je me sens mis à part, de toute façon. Mais au Canada, c'est pas la même chose, parce que le système nous intègre, alors qu'en France, ce que vous appelez le plafond de verre est une réalité. Il y a une main absolument l'autre qui vous empêche d'avancer.
Merci beaucoup pour ce témoignage, hein, Racine. Et puis, merci aussi pour votre courage, parce que vous l'avez dit, vous êtes un homme discret et votre témoignage n'en est que plus précieux en direct chez 7 milliards de voisins. On parle du racisme. Je vous lis le message aussi sur Facebook d'Ousmane, qui poste de Dakar, qui nous dit le racisme est instrumentalisé. Certains utilisent l'humour comme prétexte pour faire passer leur message raciste. Donc, lui aussi revient sur le fameux « maligne comme un singe, Taubira saisit la banane ». Et il dit, on se souvient tous de cette phrase exécrable, au nom de quel humour cette phrase peut-elle se dédouaner de sa teneur hautement raciste? La liberté d'expression à double vitesse, deux poids, deux mesures, est à l'origine de tous ces dérapages pathétiques. Vous nous appelez, les voisins et les voisines, 33 1 84 22 71 71.
Vous vous considérez comme raciste?
Ah oui, franchement oui. Moi, les étrangers, je vis avec, alors je peux pas les saquer, voyez.
Un Suisse, un Allemand, on n'est plus en France ici.
Mais c'est très mal d'être raciste, ça ne se fait pas, c'est immoral.
Les Portugaises, elles sont très propres, les voleuses. Les maghrébines, elles sont très bien avec les enfants, mais alors, le ménage est une véritable catastrophe.
Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que ça n'arrange en rien vos problèmes personnels d'être raciste.
Ils foutent rien, ils sont sales, ils nous piquent nos bagnoles, on leur file des appartements en priorité sur les Français, ils gagnent plus de fric que nous avec toutes les allocations qu'ils ont. Dans les écoles, nos mômes n'apprennent plus rien parce qu'il y a 70% d'enfants étrangers qui parlent pas un mot de français. Ils nous font chier avec leur foulard et encore faudrait qu'on paye pour leur construire des mosquées, alors vous avez qu'à voir.
Qu'est-ce que ça veut dire ça?
Que monsieur est peut-être un peu raciste.
Raciste? Moi, raciste?
Oui, on a tenu à parler du racisme dans l'émission et de l'humour surtout pour parler du racisme, parce que dans votre livre Kaya Diallo et Virginie Sassoon, dans les témoignages qui ont été sélectionnés sur cette fameuse plateforme où postent les personnes qui se sentent victimes de racisme, et avec raison, les blagues vaseuses, les blagues nulles sont omniprésentes, Virginie Sassoon.
Oui, les blagues nulles sont omniprésentes. Après, je pense qu'il faut faire attention. Là, ce sont des blagues qui sont faites par des gens qui sont extérieurs, ce sont pas des blagues d'humoristes, parce que il y a toujours cette dérive de
bien
se dire
sûr,
bon aujourd'hui
ça veut pas dire qu'il faut supprimer les humoristes,
voilà.
On est bien d'accord.
Donc là c'est dans un autre cadre, et puis je crois que à partir du moment où vous blessez quelqu'un ou vous l'offensez, il faut vraiment savoir se remettre en question. Et il y a aussi quelque chose dans l'humour qui est différent, c'est-à-dire que quand on est entre soi, on peut entendre des choses qui nous font rire qu'on n'accepterait pas de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et cette nuance-là est pour moi fondamentale. Donc il faut bien voir que quand les gens se sentent humiliés ou blessés, c'est bien que ça provient de quelqu'un qui, sous couvert d'humour, veut et est dans un rapport de domination.
C'est ce que disaient des proches. On peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui.
Exactement.
Rokhaya Diallo.
Oui, c'est exactement ça. C'est il y a vraiment une différence entre rire avec quelqu'un et rire à ses dépens. Et souvent, c'est cette manière-là, en fait, d'utiliser l'humour comme véhicule pour finalement imposer une perception avec des préjugés qui est vécue de manière blessante, et l'incapacité aussi à entendre la réponse de la personne qui se dit blessée ou qui ne rigole pas. Et c'est vrai que on a beaucoup de gens à qui on dit ah là là, vous avez pas d'humour, c'est vraiment c'est vraiment qu'une blague, alors que l'humour ne peut pas être un prétexte pour imposer ce genre de vue. Et puis ce qu'on note aussi, c'est que ça se passe souvent dans le cadre du dans un cadre professionnel qui est pas un cadre qui est connu pour être un cadre humoristique.
Vous, qu'est-ce que vous pensez, Orgaïa Diallo, de Dieudonné, de sa dernière condamnation à 2 mois de prison avec sursis pour avoir déclaré « Je suis Charlie Koulibaly », c'est-à-dire un soutien implicite à l'attentat antisémite contre l'hypercacher, qui est en même temps un homme qui a du talent artistiquement parlant et qui a eu des sketchs de grand talent et qui a recueilli beaucoup de succès.
Bah, moi, ce que je trouve normal qu'en France, dès lors qu'on a des propos qui sortent du cadre légal, on soit exposé aux conséquences de ces propos devant la loi. Ce que je note, effectivement, c'est que d'autres personnalités ont été condamnées. Je pense par exemple à des gens comme Éric Zemmour, et que leurs condamnations n'ont pas produit des conséquences analogues et identiques. Et c'est un peu là-dessus, moi, que je m'interroge. C'est-à-dire que, d'une part, il y a eu toute une polémique pour interdire, et là j'étais plus réservée, les spectacles de Dieudonné en anticipant des propos racistes. Moi, je pense que les propos racistes doivent être condamnés quand ils sont exprimés et qu'on ne doit pas anticiper des propos qui ne sont pas prononcés. Mais d'autre part, c'est vrai qu'on entend il y a d'autres
des dérapages d'Éric Zemmour qui pourraient donner lieu à condamnation, c'est
bah, ce qui sont l'incitation à la haine raciale. Moi, je me souviens d'une chronique, en plus il peut pas se prévaloir de l'humour, parce que c'est pas un humoriste, Éric Zemmour. Et je me souviens d'une chronique qu'il avait faite en mentionnant les Roms, les Tchétchènes, etc., et qui vraiment s'apparentait à l'incitation à la purification ethnique. Et ça, effectivement, moi, je trouve que le CRAN avait porté plainte. Je ne sais pas ce qu'il en est advenu, mais c'est assez grave dans une tranche d'information de diffuser des messages aussi haineux.
Le gouvernement français souhaite extraire les discours haineux de la loi de la presse de 1881, qui est le cadre classique de la liberté d'expression, pour en faire des délits de droit commun, ce qui permettrait évidemment de frapper plus fort contre le racisme. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Il y a des associations qui en même temps s'inquiètent de cela.
Quelles associations s'inquiètent de ça?
De dire, on va quand même vers une pénalisation.
Moi, je crois que quand il y a des propos haineux et qui sont clairement caractérisés, il n'y a pas de raison qu'ils ne soient pas punis.
Après, c'est vrai que je trouve que chez les magistrats, en fait, dans ce qu'on peut observer des condamnations, on se rend compte que là, il y a quand même une certaine clémence à l'égard des gens qui sont auteurs, pas seulement de propos de racisme, mais de discrimination. Et peut-être que, je sais pas s'il faudrait davantage sensibiliser ou former les magistrats, mais aujourd'hui, le fait de proférer des propos racistes ou d'exercer une discrimination raciste est assez peu coûteux, socialement et pénalement. Et je pense que c'est ce qui aussi entretient l'idée qu'on peut impunément continuer à exprimer du racisme.
Alors, on le disait au début de cette émission, et à la lumière de vos témoignages postés sur Facebook, le racisme a des formes extrêmement différentes, et puis surtout des cibles très différentes. On parle bien sûr des racismes aujourd'hui chez 7 milliards de voisins. Et vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Nous accueillons Bouna, qui est à Nouakchott, en Mauritanie. Bonjour Bouna.
Bonjour et bienvenue à Nouakchott.
Merci et bienvenue dans l'émission 7 milliards de voisins. Pour l'instant, nous ne sommes pas à Nouakchott, et hélas d'ailleurs, on aimerait bien venir faire des émissions à Nouakchott, ça se trouvera sûrement. Bouna, vous êtes en direct chez 7 milliards, vous souhaitez nous parler du racisme en Mauritanie, dans votre pays?
Oui, malheureusement, il est monnaie courante ici. Vous savez, une partie de la population, ce sont des descendants d'esclaves, comme moi. Et malheureusement, parfois, je suis avec des amis et lorsqu'il y a quelqu'un qui a une couleur de peau blanche, il salue directement ses parents. Et moi, parfois, il ne me voit même pas. Donc, j'essaie de garder mon calme et d'utiliser ça contre lui en restant calme, en ne répondant pas au racisme par une autre forme de racisme. Et parfois, si l'occasion se présente, de lui montrer ce qu'il vient de faire, et souvent, il se rend compte qu'il a fait une bêtise.
C'est-à-dire que c'est une attitude. C'est ça, oui, Bouna, c'est une attitude qui n'est parfois même pas consciente.
Ils ne sont même pas conscients, et c'est ça le problème. Et malheureusement, ce qu'il faut dire aux gens racistes, parfois il faut leur montrer que c'est une méconnaissance de l'autre, c'est tout. Ils ne connaissent pas, ils ne savent pas, ils ne se rendent même pas compte de l'existence de l'autre. Ou bien ils ne peuvent pas le considérer au même pied d'égalité. Et le pire, ce serait de répondre au racisme par une autre forme de racisme. Et malheureusement, beaucoup de mes parents, ils réagissent comme ça. Et eux aussi, ils se sentent bêtement touchés par certains comportements. Malheureusement, des leaders politiques utilisent ceci contre cela. Oui. Et vous voyez.
Alors, ceci dit, avec la réforme constitutionnelle de 2012, si je me trompe pas, la diversité ethnoculturelle est désormais inscrite dans la constitution mauritanienne. Néanmoins, ça ne change pas les réalités que vous vivez, Bouna. Vous estimez finalement qu'il est de la responsabilité des victimes du racisme d'expliquer, d'éduquer les racistes, si je vous ai bien compris.
De donner les exemples, de poser des actes nobles qui obligent les autres à nous respecter.
Oui.
C'est ça le problème. Oui. Il faut donner aux gens des raisons de nous respecter. Mais s'il ne me connaît pas, je lui donne des raisons de me connaître en bien. Et comme ça, il va être obligé de me considérer. J'ai souvent vu le regard des gens qui ne se rendaient même pas compte de mon existence. Quand je mets à parler et à leur montrer ce qu'ils sont en réalité, ils se rendent compte, ils prennent conscience qu'il y a une chose qu'ils ne connaissaient pas.
Ouais, preuve qu'il y a de l'espoir.
Je pense que le gouvernement, il aurait dû investir dans cette manière de sensibiliser les gens, de les rééduquer, plus que dans les lois ou bien dans autre chose. C'est une chose culturelle.
Ouais, la pédagogie, finalement. Merci beaucoup, Bouna, pour ce témoignage de Nouakchott, extrêmement clair. On accueille Michel. Où est Michel? À Malabo, en Guinée équatoriale. Bonjour, Michel. Soyez le bienvenu.
Bonjour Emmanuel.
On vous écoute.
Ça fait longtemps que j'écoute votre émission, mais ça m'intéresse beaucoup. Comme j'ai affaire de racisme aujourd'hui, c'est après que j'ai appelé pour pouvoir intervenir un peu. Sincèrement, là où nous on est ici en Guinée équatoriale, on voit les étrangers comme un chien. Bon, c'est ça, on te dit même de faire papier, plus de 500 000 francs pour faire le papier.
Ouais.
Mais même si tu as papier, on t'amène à... pour te maltraiter, ou comme tu es venu pour chercher l'argent, je ne vais pas plus, mais
ouais, vous vous sentez discriminé en tant qu'étranger en Guinée équatoriale, si je comprends bien. Merci beaucoup, Michel. Je voudrais quand même qu'on ait les réactions de nos invités, Virginie Sassoon et Rokhaya Diallo, sur ce qu'a soulevé Bouna tout à l'heure, finalement, une forme de responsabilité, d'expliquer en même temps une fatigue permanente quand on se sent victime de ces petites phrases, de cette indifférence, pire, de cette invisibilité d'ailleurs, dont nous parlait Bouna. Est-ce qu'il faut se manifester, expliquer, réagir, Rokhaya Diallo?
Je trouve que c'est une charge qui est vraiment lourde pour les personnes qui sont déjà exposées au racisme. C'est vrai qu'on est souvent élevé dans l'idée qu'il faut en faire deux fois plus pour obtenir la moitié de ce qu'ont les autres. C'est déjà difficile. Parce qu'en fait, je pense qu'on doit être respecté en tant qu'humain et on ne doit pas devoir en faire plus, montrer qu'on est un bon humain pour avoir droit au minimum de respect qui est dû à chaque être humain. S'il y a un rôle d'éducation, je pense qu'il doit être davantage porté par l'État, et le fait que la Mauritanie a intégré la dimension multiculturelle de son pays dans la Constitution doit peut-être être accompagné de l'explication de l'histoire de toutes les populations qui composent la citoyenneté mauritanienne.
Dès l'enfance, enfin en tout cas dès l'école. Alban nous envoie un message de Lomé. Au Togo, on assiste à une forme de racisme en raison des ethnies. Alors il n'y a pas qu'au Togo, ça je crois qu'on l'a compris en lisant les témoignages. Celui qui est du Nord et celui qui est du Sud sont racistes l'un envers l'autre. On voit ça même dans les réactions des enfants. Pour y remédier, le gouvernement a entrepris la reprise de l'enseignement de l'éducation civique et morale dans les écoles, dans les collèges et dans les lycées. Vous, toutes les deux, vous croyez à quoi? Vous croyez à la loi, à la sanction ou à l'éducation?
Aux trois. Et je pense que le racisme a des causes multifactorielles et qu'on doit y répondre de manière de multiples façons. Et voilà, l'État, la sanction et évidemment la responsabilité de l'école et notre responsabilité individuelle aussi. Je veux dire, il faut savoir se remettre en question en tant qu'individu, au sein de notre famille et en tant que parent aussi, être responsable de ce qu'on transmet, puisque la famille, c'est quand même le premier lieu de transmission des préjugés. Et ensuite, l'école, évidemment, est la responsabilité mobilité politique doit être mise en avant.
Alors, un message qui m'est directement adressé, je présume, Hippolyte m'écrit, quand on commence à parler de Français d'origine, comme pour l'agressé du métro, c'est le début du racisme, on est tous Français. Je ne sais plus ce que j'ai dit, mais j'ai forcément dit, j'ai parlé d'un homme noir, ben ça c'était donné l'information objective, et j'ai dit effectivement Français d'origine, d'ailleurs, vous voyez, j'ai oublié son origine, ça prouve bien que ça n'a aucune importance. Rokhaya Diallo, alors qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que j'ai commis une erreur? Est-ce que j'ai commis finalement une phrase raciste inconsciente?
Ben, je pense qu'il est important de préciser dans ce cas qu'il était noir, puisque c'est la raison pour laquelle il a été exposé à ça. Après, c'est vrai que je pense qu'il y a une difficulté. Enfin, souvent dans le vocabulaire.
Et vous avez dit vous-même, je suis française d'origine africaine.
J'ai dit que mes parents étaient sénégalais. Alors après, je peux dire effectivement que je suis d'origine sénégalaise. Ça dépend des circonstances. C'est-à-dire que souvent, en fait,
c'est à vous de le décider finalement.
C'est ça. On utilise cette information de manière, on la donne de manière gratuite. Il y a des moments où ça fait sens. Là, de dire que je suis d'origine sénégalaise, quand on parle du Sénégal, ça fait sens.
Et sur
RFI. Voilà, j'y suis allée, que effectivement, ce qu'on a pu raconter sur le Sénégal, ça me parlait. Mais la même personne aurait pu ne pas du tout, enfin, une personne avec un passé identique, un passé migratoire identique à celui de mes parents, pourrait ne pas du tout s'identifier au Sénégal ou ne pas le connaître. Donc effectivement, comme vous le dites, l'important, c'est qu'on puisse se définir soi-même et ne pas se voir imposer des dénominations, par d'autres.
Un message de Francis, les organisations dites antiracistes vivent aux dépens du racisme. Elles nous font croire que le phénomène augmente pour mieux gérer leur business. Elles crient au scandale là où il n'y en a pas. Elles nous divisent pour mieux régner.
Oui, bah moi je trouve ça très sain d'avoir une réflexion critique sur les mouvements antiracistes. Ça veut pas dire que le racisme n'existe pas. Après, comment on y remédie et comment on agit, c'est très bien d'avoir. Alors je rejoins pas ces propos-là, mais je trouve néanmoins que c'est sain d'avoir un débat sur comment lutter contre l'antiracisme.
Il faudrait surtout pas que le politiquement correct soit une chape de plomb pour ne plus évoquer ces questions-là.
Il y a la question de l'instrumentalisation de certaines causes. C'est ça dont il est question.
Merci en tout cas à toutes les deux. Je crois que le combat n'est pas fini. Il y a de l'espoir pour les nouvelles générations, je veux le croire. Rokhaya Diallo, éditorialiste, Virginie Sassoon, sociologue, vous publiez toutes les deux mois Raciste jamais, scène de racisme ordinaire. Merci à toute l'équipe. Demain, 7 milliards de voisins, c'est l'Afrique en mouvement. La parole est à ceux qui veulent entreprendre sur le continent. Avec le retour du coach Didier Akwété, il vous écoute, il vous conseille. Vous nous contactez dès maintenant.